Vous êtes à l'écoute de Radio Grand Ciel. Lionel Delarouillère vous présente La Voix des Notaires. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Maître Gapet, notaire à Nogent. Bonjour Maître.
Bonjour Monsieur.
Maître, j'ai le cas de quelqu'un qui a un certain patrimoine, qui vit seul, qui n'a pas d'enfant, les parents sont décédés. Que va-t-il se passer lorsque la mort arrivera ?
Et donc il est célibataire,
il est célibataire, sans enfant.
D'accord, écoutez, oui, la loi a prévu, il y a des ordres d'héritage, si vous voulez, effectivement. Dans la plupart des cas, il y a des descendants, et donc ce sont les descendants qui passent en premier, bien évidemment. Après, ça peut être les ascendants. Mais en l'absence d'ascendants ou de descendants, eh bien, la succession est dévolue aux collatéraux, qui peuvent être soit des collatéraux ordinaires, des collatéraux privilégiés, qui sont les frères et sœurs ou leurs descendants, ou des collatéraux ordinaires, qui sont les cousins. En l'absence d'enfants, évidemment, s'il y a un conjoint, c'est le conjoint qui reçoit tout.
Bien sûr. Oui.
Hein, mais s'il n'y a pas de conjoint et il n'y a pas d'enfant, eh bien, ce sont les collatéraux. Alors, dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle un partage de la succession, c'est-à-dire qu'en fait, la succession va être dévolue pour moitié à la ligne maternelle et pour l'autre moitié à la ligne paternelle.
D'accord.
Et s'il n'y a pas de collatéraux privilégiés, c'est-à-dire pas de frères et sœurs ou de descendants d'eux, c'est-à-dire des neveux ou des nièces, eh bien, ce sont les collatéraux ordinaires, donc les cousins qui vont hériter. Et en France, on hérite jusqu'au sixième degré, ce qui correspond à un cousin issu de Germain.
D'accord, oui.
Petite précision importante, dans ce cas où ce sont des collatéraux privilégiés qui héritent, eh bien, les règles ne sont pas tout à fait les mêmes que pour les collatéraux ordinaires, pardon, je suis en train de me mélanger. Les héritiers les plus proches éliminent ceux plus éloignés.
Hein. Donc on
va pas les compter par branche.
Oui. Hein. Autrement dit, s'il y a des cousins, les issus de Germain n'auront rien.
Absolument. Absolument. Voilà, s'il y a des cousins germains, dans une autre branche, ils peuvent très bien ne rien avoir.
Oui.
Et puis, ensuite, si jamais, c'est des choses qui peuvent arriver, si jamais dans une des branches, il n'y a absolument pas de cousins, jusqu'au sixième degré, eh bien, et qu'on en a trouvé dans une branche, donc c'est la branche subsistante, entre guillemets, qui va recueillir la totalité.
Voilà, oui, c'est ça.
Et en l'absence d'héritiers dans les deux branches, eh bien, jusqu'au sixième degré, eh bien, qui va hériter ? C'est l'État.
Ah ben oui, c'est ça.
Voilà.
Oui.
Et donc, pour éviter ça, évidemment, que faire ? D'abord, la première chose, c'est d'en parler, et évidemment, prévoir des dispositions.
Oui, il faut mieux faire un testament.
Exactement. Donc, un testament qui, je vais l'expliquer, peut revêtir différentes formes. Alors, un testament, c'est quoi ? C'est désigner par avance la personne qui va hériter de votre patrimoine.
Voilà.
Un testament peut désigner une personne, donc c'est ce qu'on appelle un légataire universel, qui va recueillir la totalité de la succession.
Voilà, on ne parle plus de cousins, on parle
Et dans
plus...
ce cas-là, s'il n'y a pas d'héritier réservataire, c'est-à-dire s'il n'y a pas de descendant, eh bien c'est la personne qui va être nommée dans le testament, donc le légataire universel, qui va hériter de la totalité.
D'accord.
Ensuite, ce légataire universel, il peut très bien ne pas être tout seul. Hein, il peut très bien y en avoir plusieurs. Vous pouvez dire, j'institue pour légataire universel, un tiers monsieur, un tiers madame.
Oui, c'est ça. Dans le testament, on prévoit plusieurs légataires universels.
On peut prévoir plusieurs légataires universels.
Voilà.
Ou on peut faire ensuite des legs particuliers, en disant, je lègue telle chose à telle personne.
Voilà.
Ou je désigne telle personne légataire universel à charge de délivrer un legs à une autre personne.
Voilà.
Donc tout ça peut être fait de cette façon-là.
Oui, si c'est fait donc le testament, c'est, évidemment, c'est, ça simplifie.
Alors,
si vous voulez, il n'y a rien qui est.
Voilà, mais il faut de toute façon en parler à votre notaire parce que chaque situation est différente. Et si c'est mal rédigé, on peut arriver à des résultats qui ne sont pas du tout ceux que l'on avait prévus.
Et qu'on peut contester un testament ?
Alors. Je vais y venir, si je peux me permettre.
Oui, oui.
Oui, on peut, de toute façon, on peut toujours tout contester. Mais sachez que contester un testament est vraiment quelque chose de très, très difficile. D'abord, pourquoi ? Parce que, ça fait un peu anticiper sur ce que je voulais dire, mais vous avez plusieurs formes de testament. Vous avez d'abord ce qu'on appelle le testament authentique. C'est-à-dire un testament qui est fait par le notaire. Donc, c'est plus le testateur qui va écrire son testament, mais il va le dicter au notaire en présence soit de deux témoins,
oui,
soit d'un deuxième notaire.
D'accord.
Donc là, dans ce cas-là, il s'agit d'un testament authentique.
Oui, alors là, aucune contestation.
Bah, c'est pas possible.
Oui.
Voilà, vous prouvez que le notaire a fait un faux, c'est pas possible.
Bon.
Après, effectivement, vous avez une deuxième forme de testament qu'on appelle le testament holographe, qui est beaucoup plus simple, parce qu'en fait, c'est un testament qui est écrit de la main du testateur et qui doit, pour être valable, répondre à trois conditions de forme, c'est-à-dire effectivement être écrit de la main du testateur, daté, signé.
D'accord. Bon. Et le fait de le remettre à un notaire, est-ce que ça le valide davantage ?
Ah, c'est pas ça qui le valide, mais c'est ce qui en assure la conservation.
Ah bon, d'accord. Mais donc éventuellement.
C'est plus prudent parce que vous n'avez pas d'enfant. Vous faites un testament en faveur d'une personne.
Oui.
Et puis le jour où vous n'êtes pas bien, il y a une autre personne qui tombe chez vous. Le testament, si ça lui convient pas, on le retrouvera pas.
Hein. D'accord.
Voilà.
Mais on peut si c'est remis au notaire, il peut se contester ce testament.
Ça dépend parce que nous, quand on fait un dépôt de testament,
oui,
une fois le décès survenu, eh bien, si le testament est déjà chez nous, donc ça veut dire qu'il a été remis de la main du testateur, puisque les testaments sont fichés, il y a un fichier national. Et donc, si le fichage est antérieur, ça veut bien dire qu'il a été remis au notaire. Donc, je vois pas comment on peut contester et dire que c'est pas la bonne personne.
Voilà.
En revanche, si dans une succession, après l'ouverture de la succession, on me rapporte un testament en me disant, tiens, j'ai trouvé ça au fond du placard. A priori, il n'y a pas de raison de le suspecter, mais effectivement, ça peut éventuellement être.
Et puis ça peut disparaître.
Ça peut disparaître, ou on peut dire, non, c'est pas lui qui l'a écrit, il n'était pas capable de l'écrire parce qu'il n'avait pas sa tête.
Mais
tout ça, c'est des choses à prouver qui sont très difficiles.
Oui.
Hein? Donc, il faut prendre conseil, ça c'est évident. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'effectivement, s'il n'y a pas d'héritier direct, il est évident qu'il faut que vous ayez fait ou à faire un testament.
Merci maître, nous allons à notre pause musicale et nous reprenons immédiatement après. Je vous rappelle, vous êtes à l'écoute de Radio Grand Ciel et je suis avec Maître Gappé pour nous parler de succession lorsque rien n'a été décidé par celui qui est tout seul dans la vie.
Voilà, donc c'est pour ça que je conseillais de faire un testament et d'aller voir
son notaire. C'est un bon conseil.
Alors, je continue dans le testament. Vous pouvez avoir des souhaits qui sont quelquefois un peu compliqués à mettre en place, et donc il est évident que il est quelquefois utile de nommer dans le testament ce qu'on appelle un exécuteur testamentaire.
Ah, okay.
Qu'est-ce que c'est qu'un exécuteur testamentaire ? C'est une personne que vous désignez et qui va veiller au respect de votre testament.
D'accord.
Hein, qui peut elle-même être bénéficiaire d'un legs, hein, mais qui peut être aussi désignée comme exécuteur testamentaire. Évidemment, c'est une mission qu'elle peut refuser, donc ça serait bien de lui en parler avant, ça c'est clair.
Voilà.
Et puis, ça peut être aussi pour veiller à des dispositions qui sont pas forcément patrimoniales. Par exemple, vous avez des vous voulez que vos funérailles se passent de telle ou telle façon.
Bien, voilà, oui, c'est ça, c'est les dernières volontés.
Voilà, c'est ça. Et donc, il peut être utile de désigner un exécuteur testamentaire. Après, le dernier volet que je voudrais évoquer, c'est évidemment, c'est la fiscalité.
Ah ben oui, hein, j'allais vous poser la question.
Si vous désignez quelqu'un qui n'est pas de votre famille, oui. Un ami,
oui.
Eh bien, vous avez 60% de droits. Hein. Oui. Ensuite, même les frères et sœurs, l'abattement n'est que de 15 000 euros par tête.
Oui,
et puis au-dessus, on est à 35-45%.
Donc, ça veut dire. Entre frères et sœurs.
Donc, la fiscalité, elle est quand même pas neutre. Hein. Et puis.
Alors, pour les cousins?
Ah, bah, les cousins, ils sont à 60%.
Et les issus de Germain?
Ah ben non, mais ils sont à 60%, tout simplement.
Ah oui, c'est ça, c'est le maximum.
Voilà, ils sont à 60%.
Bon, d'accord.
Avec un abattement qui est très faible, hein, puisqu'il est de 1500 euros. Donc, en fait, ils payent le premier héritage, le premier bénéficiaire.
Oui, la moitié pour l'État.
Voilà, plus de la moitié,
c'est pour l'État. Plus de la moitié, même.
Alors, pour éviter ça, évidemment, on peut essayer de voir si on peut souscrire des assurances-vie, parce que les assurances-vie, quelquefois, elles sont complètement défiscalisées. Ça a fait l'objet de discussions que nous avions déjà eues précédemment.
Oui.
Et donc, dans ce cas-là, eh bien, ça peut permettre de minimiser les droits de succession.
Hein. Voilà.
Il y a d'autres solutions, mais qui vont faire l'objet d'une discussion un autre jour que nous allons avoir.
Bon, très bien, nous prendrons ceci, oui.
Voilà, et c'est pour ça que je voulais parler des dons, legs, des associations, etc. Donc tout est possible. Il y a différents mécanismes qui peuvent permettre de baisser les droits de succession. En tout cas, ce qui est important, c'est surtout de prendre conseil, rédiger son testament. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas le rédiger tout seul. Il faut aller voir son notaire pour que le notaire vous conseille sur les formules par rapport à votre situation personnelle. Hein. Sachez que quand un testament est mal rédigé, le remède peut être pire que le mal.
Oui, ben c'est ça, oui, parce qu'il peut toujours être malheureusement contesté après. L'exécuteur testamentaire est prévenu avant, connaît le testament ou pas ?
Ben, c'est pour ça que je disais qu'il était important de le prévenir avant.
Oui, ben c'est ça, oui.
Parce que, bon, vous savez comme moi que les obsèques, ben, c'est quelques jours après le décès. Le testament n'est pas forcément ouvert avant. Hein. Sachez quand même que, et ça nous arrive souvent, lors d'un décès, on peut très bien interroger le fichier central des testaments, donc il faut demander à son notaire, et comme ça se fait par voie dématérialisée, c'est quelque chose qu'on a en général soit immédiatement, soit au plus tard dans les 24 heures.
Ah oui, c'est très rapide.
C'est très rapide. Donc on sait s'il y a des dispositions testamentaires et on peut aller regarder le testament si jamais le défunt avait prévu quelque chose. Voilà. Donc, testament important, mais ne le faites pas tout seul.
C'est vrai, très bien,
ça serait le dernier conseil que je pourrais donner à vos auditeurs.
Merci de ces conseils. Je crois que ça va intéresser nos auditeurs de savoir qu'il faut être prudent et que la mort, ben, malheureusement, nous attend tous et qu'on aura forcément de futurs héritiers.
Oui, il y aura une succession à régler, ça c'est clair.
Voilà, et une succession à régler, parce qu'en général, il reste toujours quelque chose. Merci, maître. Je vous rappelle que vous étiez donc à l'écoute de Radio Grand Ciel et que la réalisation technique est de Claude Casal.